Isaac Pavlovski en cellule. Lettre d'Ivan Tourguenieff, écrite au directeur du journal Le Temps. Vendredi 17 octobre. Mon cher monsieur Hébrard, voici un fragment de mémoire autobiographique qui m'a paru digne d'être communiqué au lecteur de votre journal. L'auteur est un jeune russe, trop nombreux par le temps qui court, dont les opinions ont été jugées dangereuses et punissables par le gouvernement de mon pays. Sans approuver nullement ses opinions, j'ai cru que le récit naïf et sincère de ce qu'il a eu à souffrir pourrait, tout en excitant de l'intérêt pour sa personne, servir à prouver combien la prison cellulaire, préventive et peu justiciable aux yeux d'une saine législation. J'espère que vous serez frappé comme moi par l'accent de vérité qui règne dans ces pages, ainsi que par l'absence de récrimination et de reproches inutiles sinon déplacés. Vous verrez que ces nihilistes dont il est question depuis quelque temps ne sont ni si noirs ni si endurcis qu'on veut bien les représenter. Recevez, cher monsieur Hébrard, l'assurance de mes meilleurs sentiments, Ivan Tourguenieff. En cellule, impression d'un nihiliste. Les premiers temps. Je me souviens encore comme mon cœur tressaillit et se serra lorsque j'entendis pour la première fois le bruit que fit la porte de ma cellule en se refermant sur moi. Je ne m'attendais à rien de bien grave. Aussi le sentiment que j'éprouvais ne contenait-il aucun élément de crainte. C'était plutôt de la curiosité que je ressentais. Toute cette mise en scène mystérieuse, et qui devait être terrible, toutes ces mesures employées envers moi, le plus doux parmi les gens paisibles, ne me terrifiaient aucunement. J'y trouvais plutôt une pointe de ridicule, et je riais. Par désœuvrement, je me mis à examiner ma cellule. Elle avait 7 pas en long et était assez haute de plafond. L'unique fenêtre en était armée de grillages en lourds barreaux de fer, et je constatais que ma nouvelle demeure était trop étroite pour être arpentée de long en large, seule occupation qui me restait pour le moment. Les murs, badigeonnés en jaune, étaient tous couverts d'inscriptions très difficiles pourtant à déchiffrer, car la main prévoyante du staroï s'était empressée de les effacer au fur et à mesure de leur apparition. Après beaucoup d'efforts, je parvins à en lire une, « Vae victis », malheureux vaincu. Un lit se trouvait acculé à l'un des murs. Un seau dans un coin, une toute petite table, une chaise, voilà pour le mobilier. Après avoir terminé mon inspection, je sentis tout à coup que je n'avais rien à faire. Il n'était pas plus de 6 heures du soir. Je me jetai tout habillé sur mon lit et me mis à réfléchir à ma position. Que devais-je répondre? Comment devais-je répondre aux interrogatoires? Me retiendrait-on longtemps ici? Serais-je condamné et puni ou non? Mais mon cerveau ne voulait pas m'obéir et penser. Bref, je décidai que la nuit porte conseil. Et je m'endormis. Un bruit de clés, d'éperons et de sabres traînant sur des dalles de pierre me réveilla. Le jour n'avait pas encore paru. La porte de ma cellule s'ouvrit et un soldat entra. Il était affublé d'un gilet en drap bleu, avait une serviette sur l'épaule et portait d'une main un bougeoir allumé et de l'autre une cuvette et un pot d'eau. Dans l'encadrement de la porte se voyaient un fonctionnaire et un starshoï, muets tous les deux et immobiles comme des statues. « Quelle heure est-il ? » demandai-je en étirant les bras. « Donne-lui le savoir, » fut la réponse. « Eh, dis donc, est-ce déjà le matin ? » ?»« Je ne puis le savoir. » Je compris qu'il lui était défendu de me parler, et partant, je cessai mes questions. Mais je ne pus m'empêcher de ressentir un mouvement de colère pour l'humiliation que je venais de subir. Pendant que je me lavais, on m'apporta du thé. Puis de nouveau, un bruit de clé, d'éperon. La porte se referma, et pendant longtemps encore, j'entendis l'écho des pas qui s'éloignent. Enfin, le jour parut. Je trouvai sur ma table un volume d'une revue réactionnaire. Je me mis à lire, mais la lecture ne parvint pas à dissiper l'impression désagréable que m'avait fait l'insignifiant épisode du matin. Au contraire, elle l'aggrave. Je jetai mon livre avec dépit et j'essayai de me promener dans ma cellule. Mais le plancher criait. Je me heurtais à tout moment aux meubles. À chacun de ces bruits insolites, le factionnaire s'approchait à pas de loup de ma porte. J'entendais grincer le châssis du Judas qui y était pratiqué à hauteur d'homme. Deux yeux y apparaissaient et se fixaient sur moi. Pour éviter cet espionnage, je cessai de marcher. Je m'assis sur la chaise en tournant le dos à la porte. Et sans me rendre compte moi-même comment cela se fit, je me mis à réfléchir aux circonstances qui m'avaient amené en ce lieu. Je décidai qu'il fallait me préparer à tout ce que l'avenir pouvait avoir en réserve pour moi. Dieu nous a tous en sa main, pensais-je. Je me souvins aussi qu'il ne manquait pas de lieux qui ne sont pas trop rapprochés. Je me rappelais qu'il y avait des travaux dénués de tout agrément. Je pris toutes ces éventualités en considération, de sang-froid comme un bon russe que je suis. Du reste, ne savais-je pas d'avance ce qui m'attendait. Toutes les questions qui pouvaient surgir à propos de sacrifices et de privations, pour moi personnellement et pour ceux qui m'étaient chers, tout cela a été résolu d'avance, depuis longtemps, dans un sens ou dans un autre. Il n'avait plus à revenir là-dessus. Et néanmoins, lorsque je pensais que loin, bien loin, à plus de 2000 verstes, vivaient deux vieillards qui avaient mis toute leur âme en ce jeune homme muré dans sa cellule, que ces deux vieillards avaient droit au repos et hâte de se reposer après une longue vie de labeur, et que c'était de ce même jeune homme qu'ils attendaient des moyens pour pouvoir le faire, que ces deux vieillards, en apprenant où je me trouvais et ce qui m'attendait dans l'avenir, pourraient aller se reposer d'une autre façon, là où il n'y avait plus ni douleur, ni larmes, ni soupirs. Quand je pensais à tout cela, mon cœur se serra d'angoisse. Je me tourmentais toute la journée sur ce même thème. À midi, on apporta mon dîner. Je ne pus manger. Était-ce qu'il fut encore trop tôt? Était-ce que mon système nerveux fut trop excité? Ce même jour commencèrent les interrogatoires. Ils continuèrent avec diverses interruptions pendant plus d'un mois. Quand je pense maintenant à ce temps, il m'apparaît comme un délire de lièvre chaude. Mon cerveau travaillait nuit et jour, sans cesse ni repos. Il fallait se souvenir, sans jamais oublier, même pendant un instant, que les paroles échappées ne sont pas les oiseaux qui ont quitté leur volière et qu'on peut rattraper pour les y remettre. Le temps passait avec une rapidité que je n'ai jamais connue, ni jusque-là ni plus tard. Les interrogatoires terminés, les jours devinrent longs et monotones. L'ennui me rongeait. Je pouvais, en m'éveillant le matin, prédire tout ce qui m'arriverait dans le courant de la journée, même ce que je penserais, ce qui me tourmenterait. Il me semblait que des années s'écoulaient avant la venue de la nuit. Il me semblait que la terre et le soleil, l'univers entier et le temps, s'étaient arrêtés et resterait pour toujours immobile. Mais lorsque la journée était finie, elle perdait pour moi toute durée. Il me semblait que la minute qui venait de s'écouler avait été plus longue que tout le jour entier. Mon système nerveux avait atteint une acuité morbide. Le moindre bruit, un frôlement, me causait des soubresauts. Les plaintes lugubres du vent d'automne, s'engouffrant dans la cheminée, me jetaient dans des accès d'une horrible tristesse. Ces hurlements me semblaient être des gémissements et des pleurs, et je croyais reconnaître les voix de mes compagnons d'infortune. Une fois j'entendis un véritable gémissement, je me mis à trembler de tout mon corps. Mon imagination surexcitée me retraçait les horreurs des tortures du Moyen-Âge, je me sentais pâlir. Je pouvais à peine supporter l'espionnage constant du factionnaire qui me fixait sans relâche à travers le Judas. Pour l'éviter, je m'adossais au mur dans lequel la porte était percée, et je restais des heures comme cela. Ma pensée s'envolait alors vers la petite Russie, ma belle patrie où j'avais connu plus d'un instant de bonheur. Tous les tableaux qui m'apparaissaient étaient pleins de vie et de vérité. Le soleil m'inonde de ses rayons dorés et chauds. Il me brûle presque. Je ferme mes yeux éblouis par ce luxe de lumière. Je vois de vertes prairies où des millions de grillons me chantent leur mélodie d'été. Plus loin, une légère brise fait passer une houle ondulante sur un champ de blé dont les lourds épis, déjà jaunis, s'inclinent vers la terre à son passage et murmurent doucement. J'ai les yeux grands ouverts, mais la conscience de la réalité me quitte. Je suis tout au passé. Je ne le fais pas revivre, je revis moi-même avec lui. Et comme c'est doux, toute ma vie, si pleine de jeunesse et d'espoir, repasse devant moi. Tout ce que j'ai pensé, senti, rêvé, s'y reflète. Parfois seulement un lourd malaise me rappelle que je suis enterré vivant dans un sac de pierre. Cela me paraît étrange, incompréhensible, invraisemblable. Alors je m'efforce de trouver le fil qui relie entre les événements de ma vie. Je veux m'expliquer à moi-même comment cela a pu arriver. Est-ce possible que le petit garçon, bruni par le grand air et assis sur les genoux de son père, avec la barbe duquel il joue en riant de tout son cœur d'un joyeux rire d'enfant, est-ce possible que ce soit lui qu'on ait muré dans cette tombe pour n'en jamais sortir? Cela me paraît si invraisemblable que je me persuade que le petit garçon n'a rien à faire avec le jeune homme. Le prisonnier du numéro 4 est parfaitement étranger à l'enfant. Ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Mais comment est-ce donc en réalité? Est-ce possible que ce soit pour toujours, à jamais? Et ce petit garçon, comme il était naïvement heureux jadis, comme il était insouciant, comme il pressentait peu que les sombres nuages s'amonceleraient au-dessus de sa tête. Je vois autre chose. Je revois ces mémorables matinées où la conscience de moi-même et de tout ce qui m'entourait s'éveilla pour la première fois en moi. Oh, qu'il m'est pénible de faire revivre ce souvenir-là.
C'était à la campagne, par une belle et claire journée d'août. Cela sentait le foin et l'absinthe fauchée, des fils blancs portés par le vent voltigeaient partout dans l'air doux et pur. Je me vois sur le perron du magasin de grains de mon père. Je regarde les chariots attelés de bœufs et chargés de blé qui s'approchent. Tout est neuf pour moi à la campagne. L'air si pur que je respire me semble une caresse. Tout m'enchante ici. Les vieilles bâtisses vermoulues, leurs toits de chaume moussus, et le groupe de paysans qui s'avancent, de longs bâtons blancs en main, et leur vieux Dide en tête. Un vieillard tout pareil au Dide des pins sur la pieuse image devant lequel ma mère me fait agenouiller tous les soirs pour réciter mes prières avant d'aller me coucher. Je le contemple avec respect, ce bon vieux Dide. Je vois les milliers de rides qui sillonnent son front et le tour de ses yeux. Je vois son long fouet et les bœufs qui cheminent lentement. Le chariot s'arrête près du perron où je me tiens. On soulève la bâche. Le Dide aux cheveux blancs monte sur les cieux et remplit les mesures qu'on lui tend de grains dorés en traçant à la suite de chacune des signes mystérieux sur le rebord de la voiture. Un autre paysan porte les mesures pleines vers le grenier et trace les mêmes signes sur la porte. Mais tout à coup j'entends une dispute. Mon père crie, le Dide aux cheveux blancs crie, tout le monde crie en gesticulant avec colère. En ce moment apparaît mon oncle Ivan, ce bon et brave oncle que j'aimais tant pour son uniforme et ses longues moustaches. Il va s'y faire lui aussi, mais qu'est-ce à dire? Et tous sont comme pétrifiés. Seul le Dide veut expliquer quelque chose. L'oncle Ivan l'interrompt par un coup terrible au visage. Le Dide chancelle, mais il est dompté. Alors l'oncle Ivan reprend son élan et, grinçant des dents, assène un autre coup au Dide qui, éperdu, le visage tout en sang, murmure d'une voix défaillante. « Oh, mes excuses, pardon, pardon, votre honneur !» Alors c'est à mon tour de crier, je pleure de toutes mes forces, et me jetant sur l'oncle, je me cramponne au basque de son habit. « Mais ne bats plus, ne bats plus !» Tout affolé, je sanglote et on m'emporte. Je n'ai plus jamais oublié cette scène. Pendant la nuit qui suivit, je rêvais de mon père et de l'oncle Ivan, et je voyais leurs mains souillées de sang. Cette scène! Un bruit à la porte, des yeux sur un fond noir, les tableaux des temps passés disparaissent, et je me revois dans ma cellule étouffante. Quelquefois, je me mettais près du poêle, de manière à ce que le factionnaire ne pût me voir. J'étais heureux de lui causer un désappointement. Je l'entendais alors tambouriner des doigts contre la porte. Cela se fait de jour pour s'assurer de la présence du prisonnier et de nuit pour voir s'il dort. Il est rare qu'un détenu, surtout dans les premiers temps de sa captivité, ne s'approche ou au moins ne se retourne du côté de la porte quand le factionnaire se met à frapper à petits coups. Même plus tard, tout habitué qu'il est à cette manœuvre, le prisonnier se retourne ou s'approche de la porte dès qu'il entend du bruit. Un jour, je me suis mis à la fenêtre. Des gouttes de pluie rebondissaient contre la vitre. Le crépuscule recouvrait tout de ses teintes grises. À travers le bruissement de la pluie, j'entendais gémir le vent et mon imagination évoquait le tableau d'une tempête en mer. Je voyais des vagues énormes, couronnées de crêtes blanches d'écume, des roches gigantesques contre lesquelles se brisaient les vagues pour retomber en une pluie de gouttes scintillantes. Involontairement, des analogies consolatrices naissaient dans mon esprit et se formulaient en strophes cadencées et sonores. Elles me paraissaient telles en ce moment. Et tout à coup, « Hé là-bas, toi, arrière, arrière de la fenêtre !» Je tressaillis, mais ne quittai pas ma place. « Arrière, te dit-on, veux-tu essayer du cachot? Attends que j'arrive !» De pareils épisodes me rendaient malade. J'étais prêt à pleurer. Je n'avais aucun travail à faire, pas de livre. On avait tout pris. On remportait tous les matins, même le peigne dont je me servais. Je m'amusais comme un enfant chaque fois que le Starloy oubliait de me le prendre. J'avais perdu le sommeil. Je restais quelquefois à me rouler pendant 5 à 6 heures de suite dans mon lit, avant de m'assoupir d'un sommeil fiévreux vers l'aurore. mais ce sommeil même n'avait pas le don de me rafraîchir et de me reposer. Souvent, je me sentais plus là le matin en m'éveillant que la veille en me couchant. Les nuits. Je m'efforce en vain de m'endormir. Pour y parvenir, je ruse avec moi-même. Mais le repos fuit ma couche, mes paupières brûlent. Tout mon corps affaibli par une fatigue sans nom est agité de tremblements nerveux. Je me souviens que quelqu'un m'a conseillé de compter pour pouvoir m'endormir. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 400, 700, 1000, 2000, en vain. Tantôt je m'embrouille dans les chiffres, tantôt je me mets à changer, ou plutôt ce sont des pensées qui m'envahissent. Avez-vous vu comme par une chaude journée d'été apparaît sur le pur azur du ciel un petit nuage blanc, puis un autre, puis un troisième? Ils se rencontrent, se joignent et se fondent enfin en un tout fantastique. Vous vous efforcez de vous rendre compte de sa forme, mais elle vous échappe à chaque instant en ébauchant des contours nouveaux, capricieux ou grotesques, jusqu'à ce que le ciel se couvre entièrement de nuages et qu'une nuit grise assombrisse tout de ses teintes lugubres. Bien, il en était de même avec mon propre cerveau. Tantôt je restais inerte, sans pensée. Tantôt des milliers de pensées changeaient ma pauvre tête en une fournaise ardente. Je prends à tâche de saisir le fil qui les relie entre elles. J'en attrape une. Je me presse de penser logiquement à cette circonstance. Je me pose le problème de suivre en idée l'action de la fumée sur l'organisme humain. Autrement parlant, de me ressouvenir de tout ce que je sais sur ce sujet. J'ai attaché deux idées ensemble et j'en suis tout heureux. Non, ce n'est rien encore, je suis en état de raisonner. Et mes pensées s'embrouillaient tantôt, parce que j'avais mal à la tête et à la poitrine. Les maux de tête proviennent de la stagnation du sang dans le cerveau. Cela est plus que prouvé par tout ce que l'on trouve dans les cerveaux de ces certains morts dont on fait les autopsies. J'ai vu cela avec Andrei il y a quelque temps. Il s'agissait d'un homme mort par strangulation. Qui était ce mort? Sa mère vivait-elle encore? Oui, assurément, il était si jeune. Mon imagination évoque le terrible tableau de ce mort. Comme ses yeux sont glauques et saillants. Des filets de sang caillés dessinent des traces d'un rouge noirâtre au-dessous de ses narines et de ses oreilles. Ses poings sont crispés, sa bouche aux lèvres retroussées est ouverte. Ah, qu'il est horrible et dégoûtant. Dégoûtant. Tu es en présence d'une tragédie terrible, sauvage, brutale, d'une tragédie avec du sang, des yeux glauques, des traits défigurés par une souffrance sans nom, et tu ne sais ressentir que du dégoût. Ah, que tu es tombé bas, abominable égoïste, que tu es dégradé. Mais est-ce ma faute à moi, si je suis abominable et dégradé? Qui m'a rendu tel? Et eux, qui les a faits tels qu'ils sont? La faute n'en est à personne. À personne. Depuis quand es-tu changé en agneau? Qui affirmait naguère que la faute en était à tous en général et à chacun en particulier? Qui érigeait cette idée en théorie? Hâbleur, hypocrite, tu penses à une chose et tu en dis une autre. Sacrilège. Par quoi la loi punit-elle le sacrilège? Oui, quelle absurdité! C'est du délire, mais je deviens donc fou. À quoi pensais-je tantôt? Ah oui, à l'expression du visage de l'homme strangulé. Non, non, j'en avais fini avec cela. Ah, j'y suis maintenant. Je pensais à sa mère. Quelle expression avait son visage lorsqu'elle apprit que son fils était mort? Il serait intéressant de savoir si Darwin a jamais eu la chance d'observer une expression aussi sincère que celle-là. Mais pourquoi est-ce que je pense? Il est plus que temps de dormir. Cette vieille prolongée m'est nuisible. Je m'enveloppe dans la couverture. Je me tourne et retourne dans le lit. Je ne pense plus à rien. Je suis terriblement fatigué. Enfin, je m'endors. Je rêve. Je me vois courant à perdre haleine dans une rue de ma ville natale. La journée est chaude et étouffante. À chaque pas, j'enfonce plus avant dans une boue noire et fétide. Ce n'est plus qu'avec des efforts inouïs que j'en retire mes pieds pour avancer davantage au pas suivant. Devant moi, j'aperçois mon bon Ivan Stepanitch. Je vois ses larges épaules et ses coudes qui se meuvent en cadence à chaque pas qu'il fait. Comme sa marche est rapide et puissante. Et quelquefois, quand la boue monte jusqu'au-dessus de mes genoux, je vois le beau visage de mon ami se tourner vers moi. Il me fait en silence signe de le suivre. Que de tristesse et de pitié dans ses yeux. Mais pourquoi ne vient-il pas à mon secours? Quelque chose semble nous séparer. Est-ce cette atmosphère étouffante? Ou bien est-ce que lui aussi souffrirait autant que moi? Une force fatale entraîne bientôt mon ami au loin, si loin que je distingue à peine. Je fais des efforts surhumains pour m'arracher à la boue qui menace de m'engloutir tant elle devient épaisse et profonde. Je sais que si je perds Ivan de vue, je suis irrémédiablement voué à une mort cruelle. Encore un effort, et je me réveille. Une sueur froide m'inonde. Mon cœur bat tumultueusement, je sens comme un poids immense sur la poitrine. Je puis à peine respirer. Je saute à bas de ma couchette et je regarde autour de moi. La veilleuse continue de fumer et remplit toute la cellule d'une fumée nauséabonde. J'entends le pas cadencé de la sentinelle dans le couloir. Le calme habituel de la prison est devenu plus silencieux encore. Tout semble mort. Les ombres de la nuit se sont épaissies partout et la flamme jaune de la veilleuse ne tremblote ni ne scintille au sein des ténèbres. Ceux qui sont dehors en liberté dorment aussi maintenant, me dis-je. Cette pensée me semble tellement consolante que je me recouche et m'endors le cœur allégé. Je rêve de nouveau. Je vois de profondes ténèbres où petit à petit commence à poindre un scintillement verdâtre. Quelque chose de blanc ondule. C'est une draperie en gaz. Non, non, ce n'est pas cela. Je m'efforce de saisir ce que c'est. Un vêtement de femme? Non. C'est un enfant. C'est ma sœur Macha. Elle est morte. Elle est couchée là, morte de faim. Cette pensée me transperce le cœur. Oh, mais que de cruauté! Que de cruauté! Je jette ce cri avec indignation et douleur. Je m'éveille à demi. J'appuie la tête contre le mur glacé, cherchant inconsciemment à rafraîchir mon cerveau en feu. Mais le pâle visage de ma sœur perdue pour moi, morte peut-être, continue à me poursuivre. La lueur verdâtre grandit. Elle éclaire une face pâle, des lèvres sévèrement serrées, un front pur ombragé par une épaisse chevelure noire et bouclée que j'aimais tant caresser jadis. J'ai peur, je veux crier l'angoisse. Ce sont eux qui ont tout fait. Mais ce n'est qu'un rêve. C'est l'effet d'une imagination surexcitée. Mais ne serait-ce vraiment qu'un rêve? N'est-elle pas restée seule dans cette grande ville, si froide, si indifférente? Seule, sans parents, sans amis, ne connaissant pas une âme, seule et sans le sou? Cruelle folie! Sans amis, ne connaissant personne. Et Ivan Stepanitch, et Nikolaï Nikolaïlitch, et Ivan Ivanitch, et tant d'autres. Peux-tu jurer, malheureux, qu'ils soient encore là où tu les as quittés? Tu sais bien que tout est possible, me murmure à l'oreille une voix sinistre et prophétique. Je me vois dans une vallée verdoyante, ombragé de palmiers lancés, une végétation luxuriante, des fleurs aux senteurs embaumées me grisent. Au-dessus de moi s'étend le bleu illimité d'un beau ciel du sud. Je suis heureux pendant un instant. Tout à coup, je vois se dresser devant moi un mont escarpé, un roc aride, immense, dont la cime se perd dans les nuages. Des blocs de pierre anguleux, aigus, aux formes les plus fantastiques, s'y incrustent. Des milliers de créatures humaines, aux faces crispées par une terreur muette, aux yeux saillants, aux cheveux hérissés, se cramponnent avec désespoir aux saillies du rocher. Mais une force hostile et fatale les repousse pour les précipiter et les briser sur les pierres aiguës. Des têtes défigurées se détachent de troncs qui se tordent dans des convulsions de l'agonie. Ces têtes hideuses roulent au bas du rocher en bondissant. Les bouches sont ouvertes, des langues tuméfiées balbutient des paroles que je ne puis comprendre. Un sang rouge et chaud ruisselle et s'éparpille autour en gouttes menues qui m'éclaboussent et me brûlent jusqu'au cœur. Dans ce grouillement d'horreur, dans ce concert de gémissements parmi ces cadavres encore chauds et ces têtes vivantes qui lancent des regards muets et navrants, je reconnais des voix et des traits connus et aimés. Rempli d'épouvante et de douleur, je me précipite vers le rocher. Je veux passionnément leur porter aide et secours. Je veux escalader le roc, arrêter le massacre. Je me cramponne de toutes mes forces aux arêtes aiguës. Mais soudain, une pensée terrible me remplit d'effroi. Trop tard, il est trop tard. Alors le sentiment qui m'entraîne à l'aide de mes amis acquiert une intensité immense. Je suis déjà tout prêt, encore un mouvement et... Tout à coup, un glas funèbre résonne dans les airs. J'entends des éclats de rire, des trépignements fous. Je suis saisi par des bras de fer et lancé dans l'espace. Ma cellule s'ouvre et mes visiteurs habituels du matin entrent.